François Bernard.
Bonjour, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien. Merci de nous accueillir pour parler environnement. Tout à l'heure, notre reporter Agnès Rougier nous emmènera dans le village de Moli Aoussa, qui se trouve dans la partie nigérienne du parc du W, un village qui pratique depuis quelques années l'apiculture.
On enfume la ruche en accompagnant par des exhortations, c'est-à-dire des décantations, qui permettent aux abeilles du sud, du nord ou bien de l'ouest à l'est de venir installer dans votre ruche. Et avoir aussi le miel de bonne qualité, de miel abondance, de miel qui sera réparti partout dans le monde.
Rendez-vous dans une vingtaine de minutes au Niger. Quant à TerraTech, Dominique Dezonnet reçoit aujourd'hui Claude Michel à propos du projet Solar Impulse, le premier avion à énergie solaire. Sans plus attendre l'invité qui va commenter, éclairer l'actualité de ce mardi, Mohamed Maouche, qui est chargé de campagne à WWF, nous a rejoint dans le studio. Bonjour, merci.
Bonjour, bonjour. Alors, aux auditeurs.
Les incendies en Grèce ont pu être maîtrisés, quand même 20 000 hectares de forêt et de terres agricoles qui ont brûlé. Que se passe-t-il quand les flammes s'éteignent sur un plan environnemental ?
Sur un plan environnemental, il faut comprendre que donc les incendies sont quasiment maintenant des incendies chroniques. Ils se renouvellent chaque année. Heureusement, pas toujours sur les mêmes sites. En tous les cas, ce qui se passe lorsque en Méditerranée, lorsque les forêts sont détruites, la principale conséquence, le principal drame, c'est que en détruisant ces forêts, on ajoute un peu à l'érosion des sols. Ajoute à l'érosion des sols, ça veut dire qu'on fragilise les sols. Ça veut dire aussi que la forêt, lorsqu'elle est décimée, elle a aussi une fonction de régulation climatique. Lorsque vous avez moins de forêt, vous avez moins de régulation climatique. Et dans un contexte de changement climatique, de réchauffement global, ça ne peut qu'accélérer et du moins, en tous les cas, ne pas freiner les conséquences de la hausse des températures.
Et quel impact ces incendies ont sur la mer qui est toute proche ?
Par exemple, quand on parle d'érosion des sols, l'impact, vous savez, en Méditerranée, 80% de la pollution provient des terres et des eaux qui sont des eaux de rivière qui se déversent dans la mer. Donc lorsque vous avez de l'érosion, forcément, vous avez des phénomènes qui font que l'eau aboutit plus rapidement à la mer sans être filtrée. Et donc la pollution en est accrue à moyen et long terme.
Alors la sécheresse est en cause, vous le disiez, que les incendies soient criminels ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'on peut penser que le réchauffement climatique va rendre la situation plus délicate encore ?
Forcément, forcément. Si vous avez une hausse des températures, alors on espère qu'elle sera de 2 degrés si des mesures courageuses et ambitieuses sont prises, mais il y a de fortes chances pour qu'elles passent et qu'elles aillent bien au-delà, autour de 5 ou 6 degrés. Vous imaginez bien que plus les étés seront chauds, plus les forêts seront sèches, les maquis seront secs, plus les incendies seront importants, puisque forcément les incendies se développent dans des milieux secs.
Dans l'actualité également, la France qui a décidé de déclarer auprès de l'Organisation des Nations Unies une zone économique exclusive en Méditerranée pour notamment protéger les ressources de pêche. C'est une annonce qui a été faite hier par le ministre de l'Écologie, Jean-Louis Borloo. Dites-nous ce que cela signifie précisément.
Alors ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Je ne connais pas exactement les détails de la distance de cette zone économique exclusive. En tous les cas, il faut savoir qu'en Méditerranée, la grande difficulté pour gérer cette mer fermée est que justement, on n'avait pas les outils comme une zone économique exclusive pour la France, pour mettre en place des mesures de protection, et je pense notamment au thon rouge. Donc faire ça, c'est une des demandes que l'on avait faites dans le Grenelle. C'est une vraie bonne nouvelle, et puis on constate que c'est la mise en œuvre concrète de discussions qui ont eu lieu il y a à peine un mois. Donc c'est une vraie bonne nouvelle.
Donc sauvegarder le thon rouge, qu'est-ce que ça va permettre d'autre qu'on ne pouvait pas faire avant cette zone ?
Il y a, par exemple, sur les zones économiques exclusives, l'intérêt de mettre en place, c'est qu'on va pouvoir appliquer des règles de droit sur cette zone qu'on ne pouvait pas faire jusque maintenant. Jusque maintenant, on avait une compétence jusqu'à 12 000 au-delà des côtes. 70 000, ça veut dire, par exemple, qu'on pourra mieux réguler le trafic maritime, qu'on pourra mieux gérer les questions liées à la protection, à la création d'aires marines protégées. Il faut savoir que sur la Méditerranée, donc c'est une mer quasi fermée, c'est une mer où il y a beaucoup, beaucoup d'activités, que ce soit en termes de transport, de tourisme. Je crois de mémoire que la Méditerranée voit passer à peu près 25 à 30% du trafic mondial de marchandises. Ça veut dire évidemment qu'à partir du moment où vous créez comme ça une bande qui va vous permettre de mieux appliquer la loi française de mieux soit réprimer, soit promouvoir des pratiques vertueuses, vous allez vous donner plus de moyens pour mener une politique de protection environnementale plus ambitieuse.
Bien. Je ne sais pas si vous avez repéré ça dans le journal. Deux squales ont été vus sur une plage de la Méditerranée, enfin dans l'eau, pas vraiment sur la plage. Une alerte aux requins donc a été lancée. Le drapeau rouge a aussitôt été hissé. Les vacanciers ont été priés de sortir de l'eau. Pourquoi y a-t-il une telle peur, panique des requins alors que finalement les attaques restent un phénomène assez rare, on va dire?
Faut croire que c'est un effet des dents de la mer depuis 30 ans. Non, c'est vrai qu'il y a une relation. Il faut savoir qu'en Méditerranée, les requins n'attaquent pas l'homme en général. C'est des petits requins. On n'a pas affaire aux grands blancs ou à ce type d'espèces. Donc non, j'imagine qu'il y a une relation comme ça aux requins qui fait que oui, il y a une peur panique qui se développe. Mais là, pour le coup, je pense vraiment qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Il y a des requins en Méditerranée, c'est plutôt heureux. La Méditerranée est une mer où il y a une biodiversité remarquable qui est souvent ignorée. Donc moi, je suis plutôt, même si les vacanciers diront le contraire, mais plutôt rassuré par le fait qu'il puisse y avoir des requins encore en Méditerranée.
Enfin, pas de panique, mais prudence quand même, non?
Oui, évidemment, il faut être prudent, mais il ne faut pas que ça devienne non plus une espèce de panique irraisonnée. Il n'y a vraiment pas de raison.
Un peu sur le même thème, il y a les douaniers de Bordeaux qui ont effectué une saisie de 20 tortues grecques vivantes. Hein. C'est une espèce protégée, menacée d'extinction, elle provenait du Maroc. 363 kilos de lambis, c'est un coquillage qui est inscrit sur la liste des espèces menacées, a été saisi cette fois en Martinique. Est-ce que la faune marine est menacée par la contrebande?
Oui, elle est menacée par la contrebande. Il y a deux phénomènes, en fait. Le premier, c'est le phénomène du prélèvement. Vous faites du trafic. Et quand vous êtes, que ce soit en vacances, alors là, en l'occurrence, j'imagine que c'est pas des vacanciers, mais c'est plus véritablement un trafic délictuel. La première menace, c'est vous prélevez dans le milieu naturel des espèces qui ne devraient pas être prélevées, parce que quand vous les prélevez, vous réduisez le nombre d'espèces, donc vous réduisez la capacité de ces espèces à survivre. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet qui est au moins aussi dramatique, c'est que lorsque vous les prélevez, vous les emmenez ailleurs, dans un autre milieu naturel, et là, ces espèces-là, souvent, soit sont relâchées parce que leur propriétaire s'est lassé un petit peu de l'espèce, etc. Et on se retrouve devant des phénomènes d'invasion de ces espèces parce qu'elles ne sont pas adaptées au milieu. Alors, soit elles meurent parce qu'elles ne sont pas adaptées au milieu, soit elles sont trop bien adaptées et là, elles chassent d'autres espèces existantes. Donc, elles créent des déséquilibres. Et en France, on a une foultitude d'espèces comme ça qui ont été importées et qui ont envahi leur milieu au détriment d'autres espèces qui, elles, étaient des espèces autochtones.
D'accord. On parle beaucoup écologie et politique en ce moment. J'imagine que le sujet vous intéresse, après le succès des Verts aux européennes, alors que se dessine une grande alliance de l'opposition autour d'un projet écologique et social voulu par Daniel Cohn-Bendit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Pour tout vous dire, alors je ne sais pas s'il y aura une grande alliance. En tous les cas, le métier, enfin, j'aime pas utiliser le terme de métier, mais en tout cas, la motivation pour une ONG, c'est de marteler, de dire des choses, d'attirer l'attention, d'essayer de trouver des solutions, et notamment essayer de faire en sorte que les politiques reprennent nos idées, nos solutions, nos alertes, pour qu'elles se traduisent dans des textes de loi, pour qu'elles se traduisent dans la réalisation concrète, dans la vie quotidienne des gens.
C'est la finalité de votre action.
C'est la finalité de notre travail. Donc, après que des partis politiques, des plateformes politiques se créent sur la base comme ça, très écologistes, très environnementalistes, sur des solutions de développement alternatives ou des choses comme ça, nous on peut dire que bravo, on acquiesce. J'ai pas le sentiment que ce soit, en tous les cas on n'a pas la crainte de la récupération. Et puis on a une deuxième fonction aussi, c'est très bien une fois que des plateformes politiques sont créées, que des programmes ont été établis, que les gens arrivent au pouvoir, notre métier c'est de vérifier s'ils réalisent, ils font effectivement ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Et on sait comment ça se passe souvent en politique. Il y a des enjeux énormes, importants. Et nous, notre travail, un peu comme le disent les anglo-saxons, c'est d'être des watchdogs des promesses électorales.
Donc vous préférez votre rôle d'observateur, d'expert à un éventuel engagement politique?
On est engagé, pas politiquement.
À titre personnel, là, je vous pose la question à titre personnel.
Oui, je suis aussi engagé, mais je suis engagé aussi bien à titre personnel que professionnel. Quand on travaille dans une ONG comme WWF ou d'autres, forcément, on a une motivation qui fait qu'on n'est pas simplement dans l'observation, on est obligé d'être dans l'action parce que les solutions qu'on promeut, on essaie de les mettre en œuvre avant de les pousser en avant.
Mohand Maouch est notre invité aujourd'hui. Il est l'heure de notre pause musicale. On se retrouve juste après. Harper, moi je trouve que c'est un petit peu le Cat Stevens des temps modernes. La chanson s'appelle Fly One Time. Mohand Maouch de la WWF, notre invité ce matin. Merci d'être en direct dans le studio 159 de RFI. Alors, vous vous intéressez de très près à la Méditerranée. Que devient cette grande union voulue par le président Sarkozy, lancée en grande pompe, c'était le 13 juillet 2008. Des nouvelles. On n'en entend plus beaucoup parler. Hein.
Alors, la dernière fois qu'on en a entendu parler un peu, c'était au mois de juin à Paris, puisqu'une grande réunion, réunissant les ministres de l'environnement avait eu lieu à Paris au mois de juin. L'Union pour la Méditerranée, ça partait d'une idée qui a été lancée en 2005, qui était de dire finalement, on est, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, dans un espace si restreint qu'on peut pas le gérer. Comme on le gérerait si on était à l'échelle d'un continent ou à l'échelle de la planète. Donc il faut inventer des règles communes parce que cet espace restreint, on l'exploite et qu'on a des ressources naturelles très très limitées. À titre d'exemple, je crois que la population en Méditerranée des pays qui bordent la Méditerranée, elle représente quelque chose comme une dizaine de pourcents de la population mondiale, et le territoire méditerranéen, il représente à peu près 1%. Là, c'est une première spécificité. La deuxième spécificité de la Méditerranée, c'est que c'est ce qu'on appelle un écosystème très particulier qu'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs dans le monde, à part en Californie, en Afrique du Sud et encore avec des superficies beaucoup moindres. et qu'il y a véritablement une espèce de d'évolution comme ça, des traditions millénaires où on a une espèce de mélange entre un environnement, une nature très particulière, avec une manière d'exploiter cette nature, quand je vous cite l'olivier ou la pêche au thon, qui est une pêche millénaire, etc. Donc un rapport à la nature, à l'environnement très particulier. L'enjeu, c'était de dire finalement, bon, on a cet espace en commun, est-ce qu'il serait possible que cet espace en commun géographique puisse devenir un espace commun de projet, voire même d'une espèce d'ambition politique commune.
Vous me dites quoi, qu'une politique écologique commune pourrait être une espèce d'enjeu fédérateur d'un projet comme celui-là ?
À mon avis, c'est à minima ce que l'on pourrait faire. Vous savez, si on procède par analogie et si on voit la construction de l'Union européenne, l'idée au départ, c'était de dire, bon, on a passé, la France et l'Allemagne avaient passé quasi plus près de 100 ans à se faire trois guerres meurtrières qui ont, pour une partie d'entre elles, entraîner le reste des pays du monde. Et finalement, il y a eu une espèce de souffle comme ça lors de la création. On s'est dit, pourquoi ne pas mettre en commun notre charbon, notre acier dans une dimension un petit peu dans la perspective d'une reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une espèce de souffle comme ça, de mise en commun. On se disait, bon, il y a certainement d'autres solutions à vivre ensemble entre nations européennes que celle d'être perpétuellement en conflit. Je pense qu'à Méditerranée, si on pouvait avoir ce même souffle de se dire l'environnement est notre espace commun, on pourrait avoir une politique environnementale commune, ce serait une vraie réussite.
Enfin, vous le savez, les problématiques politiques sont présente, puissante, très dense, le conflit au Proche-Orient, l'immigration clandestine par exemple du sud vers le nord. On se demande comment l'écologie ou l'écologique peut véritablement avoir du poids. Sur quel thème particulier ça pourrait...
Alors, il y a des thèmes qui sont développés dans le cadre de l'UPM, hein, de l'Union pour la Méditerranée. Le premier, c'est la dépollution de la Méditerranée. Ce que je vous disais, on a un espace commun. Il se trouve que cet espace commun, il est pollué notamment par des pollutions qui proviennent de la Terre, des pollutions telluriques. Donc, la dépollution de la Méditerranée. La question de l'eau, la gestion de l'eau, la mise en commun de compétences, notamment dans l'agriculture. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un rendement, en tous les cas, suffisant, avec une meilleure consommation d'eau, par exemple. Donc, il y a un certain nombre de chantiers. Il y a le chantier de l'énergie, par exemple, avec le plan solaire méditerranéen, qui est de dire comment est-ce que l'on pourrait envisager de développer l'énergie solaire autour de la Méditerranée pour qu'on réduise un petit peu notre dépendance au pétrole. Mmh. Donc, tous ces chantiers existent. Ce qui est important et ce qu'il faut dire, c'est que les questions de sécurité, d'immigration clandestine, elles ont un premier socle qui est le socle de la pauvreté. Et on constate que si la Méditerranée, ou du moins si cette zone-là continue à être exploitée de la manière dont elle est exploitée, on aura des phénomènes d'accroissement de la pauvreté et des phénomènes de fracture entre le nord et le sud. Donc à partir du moment où on prend conscience qu'on a la possibilité d'avoir un nouveau modèle de développement en Méditerranée, qu'il y a véritablement des enjeux qui dépassent simplement les aspects un peu politiques ou sécuritaires, là, on se donne les moyens de construire vraiment à long terme. Et c'est un peu le rêve que moi je formule.
Il nous reste une petite minute. Je sais que vous vous intéressez très près au tourisme dans les pays de la région Méditerranée. Très vite, quel genre de tourisme vous prenez ?
Alors évidemment, faire du tourisme en Méditerranée, la Méditerranée concentre là encore 30% des arrivées mondiales à peu près de touristes. L'enjeu, il est simple. Il est de dire, est-ce qu'on est capable de maintenir les paysages méditerranéens ? Parce que le premier attrait de la Méditerranée, c'est ses paysages et c'est la mer. Si on perd ça, on perdra l'afflux et les ressources économiques liées au tourisme. Donc forcément, le tourisme, un tourisme doux, un tourisme de proximité locale, est un tourisme que nous prenons. Dans le même temps, il y a aussi ce tourisme de masse. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir un tourisme de masse tout en préservant l'environnement ? Et ça, c'est une vraie question qui reste ouverte. C'est une question difficile, mais pour les pays du Sud, par exemple, l'alternative sera là. Tourisme de masse ou pas ?
On répondra à la question la prochaine fois. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Mohamed Maouch d'avoir partagé votre réflexion sur l'environnement avec nous ce mardi. Dans 3 minutes, on reprend l'émission Un Journal.